Chapitre 4. La réclame de l'infortuné était une des plus coûteuses de Paris, car l'infortuné passait pour un journal indépendant et bien renseigné, ainsi que son titre l'indiquait explicitement. Les spéculateurs, les boursiers, les hommes d'affaires de toute catégorie, gens sérieux et qui n'aiment pas les blagues, composaient sa clientèle assidue et nombreuse. Il affectait de mépriser la politique et de n'avoir pas d'opinion. Cela faisait partie de son programme, de ce fameux programme qui avait presque déterminé une révolution dans le journalisme parisien. L'infortuné n'aura pas d'opinion, il n'aura que des nouvelles. Et les nouvelles qu'il recevait, il les donnait avec ostentation, en gros caractères. Personne n'en doutait. L'infortuné n'a pas d'opinion politique, dans quel intérêt lancerait-il de fausses nouvelles ? Si, par hasard, il en lançait une, il ne la rectifiait jamais, et il n'en faut souvent pas davantage pour qu'une fausse nouvelle devienne exacte. Brock, l'homme aux bretelles, tenait par-dessus tout à la publicité de l'infortuné. Extrêmement chère, cette publicité, mais pour imposer son corset, il ne reculait devant aucun sacrifice. N'était-ce pas l'infortuné qui avait fait l'an dernier la vogue fabuleuse des pastilles antinévralgiques dont la propriété constituait aujourd'hui une fortune ? « Arrangez-vous d'abord avec lui, » avait dit Bork à Farjol. « Nous nous occuperons des autres journaux ensuite. Je veux des articles et de grandes réclames à la quatrième page. Vous connaissez Vérunia, le directeur ?»« Certes, » répondit Farjol, « et je le connais encore mieux que Velard, attendu qu'à mes débuts, j'ai été rédacteur à son journal. » Il avait autrefois, en effet, rédigé des accidents de voiture dans l'infortuné et collaboré à un incendie important. Néanmoins, il pria à Paul Velard de le représenter à Vérunia, qui ne se souvenait peut-être pas de lui. Ils se rendirent à 6 heures du soir, la seule heure où l'on trouvait le directeur, à l'hôtel de l'infortuné. Ils s'assirent dans l'antichambre et Velard tendit sa carte au garçon. « Monsieur le directeur n'est pas encore arrivé. » À ce moment, le secrétaire de Vérunia traversa l'antichambre et aperçut Velard. « Ah, bonsoir, vous attendez Vérunia ?» Et à l'oreille, il lui dit « Ne restez pas ici au milieu de tous ces gens-là, montez à la rédaction, le patron est en retard, il a fait la noce toute la nuit. « Ah, je l'ai vu à midi couché, il avait une sale mine et il m'a dit qu'il dormirait jusqu'au dîner. Il mène depuis quelques jours une existence idiote avec cette femme. » Une nouvelle, une espèce de fille, oh, pas mal d'ailleurs, qu'il a ramassée dans un bal à Montmartre. Toujours un peu crapule, ses goûts, vous savez, il dépense beaucoup d'argent pour elle. Il n'y avait pas de meilleure expression pour caractériser les goûts de Vérunia. Ils étaient crapules. Il aimait les filles dégingandées, tapageuses et grossières. Personnellement, il avait l'air distingué, petit, brun, l'œil ironique, des dents superbes, élégant de costume. C'était une surprise de l'entendre, dès qu'il ouvrait la bouche, proférer des paroles d'une malpropreté extraordinaire, des jurons et des imprécations de barrières. Il n'allait pas dans la bonne société à cause de cela. Il parlait d'une voix douce, d'un timbre agréable, et ses gestes étaient gracieux. Il ne se contentait pas de dire des saletés à tous les propos, entre deux phrases sérieuses. Il en faisait. On citait de lui des actions dégoûtantes, qui écœuraient tout le monde autour de lui, mais le réjouissaient énormément. Et quand il riait de ces choses, son rire était enfantin et communicatif. Il changeait souvent de maîtresse et ne s'attachait pas à elle. Cependant, il fut amoureux plusieurs fois. L'amour se devinait chez lui à la façon particulièrement tordurière dont il s'exprimait devant sa maîtresse. Il avait failli même avoir une passion pour une danseuse d'un établissement public, jolie fille, maigre et pâle, qui se grisait chaque soir. Il la lâcha parce qu'elle devint tellement malade de la poitrine qu'elle ne pouvait plus boire. Mais il se conduisait bien avec elle, il lui paya une chambre séparée de la salle commune à l'hôpital et assista à ses obsèques dont il fit les frais. Il était très riche, son père était mort en France quand il avait 16 ans. Il en profita pour ne pas terminer son éducation et s'amuser uniquement. Sa mère lui donna de l'argent sans récriminer. À 30 ans, il s'ennuyait dans la vie autant que possible. Tous ses camarades de fête lui avaient emprunté de l'argent, aucun ne le lui avait rendu, et cela lui suffit pour mépriser l'humanité. il se mit à être impertinent et volontaire. Il ne put plus fréquenter que des êtres inférieurs à lui par la fortune et qu'il approuvait pour ne pas se fâcher avec un homme si riche. Il avait une extrême pénétration des gens qui l'entouraient et on ne le roulait plus que difficilement. Il s'en vantait volontiers et s'il secourait un camarade dans la misère, il lui faisait cyniquement comprendre qu'il n'attendait de lui aucune reconnaissance. Il entreprenait des affaires pour s'occuper, pour brutaliser les hommes, manier des intérêts, montrer la force et la grandeur de sa fortune. Il aimait assez Brasier, dont le cynisme excitait le sien. Il se tutoyait et, dans les soupers intimes, faisait assaut d'injures et de gros mots. Ce fut Brasier qui lui suggéra l'idée de fonder un journal. « Voilà l'occupation qu'il te faut, car si tu continues, tu finiras par être complètement abruti et tu me répugneras trop pour que je continue à te fréquenter. Le principal élément du succès, c'est l'argent, et tu en as 100 fois plus que ne mériterait un voyou de ton espèce. » Cette idée l'emballa. Oui, fonder un journal, remuer des capitaux, avoir de l'influence, dominer des employés de toutes sortes, voilà ce qui lui convenait. Oh, tu pourras être grossier et impertinent à ton aise, tu auras un prétexte au moins, tu seras quelque chose. Sa première conception fut simplement de créer un journal d'affaires. Peu à peu, il l'élargit, voulut un journal complet, plein d'informations, jeté pêle-mêle, pas de littérature, trop difficile à manier, les littérateurs trop exigeants, trop susceptibles. Le vrai journal nécessaire à des gens pressés, indifférents, pratiques. L'informé parut, précédé par une réclame gigantesque, et son succès fut énorme, tout de suite. Vérunia ne tarda pas à être un personnage considérable. Sa mère avait eu l'ingénieuse idée de le faire naturaliser français à 21 ans. Il était né au Brésil, comme Vérunia le père. La pauvre femme parlait peu de son époux. Les rares occasions où elle prononçait son nom, c'était pour dire « Nous étions alors à Rio de Janeiro, à La Plata, à San Francisco, aux Indes. » Évidemment, toute leur existence s'était écoulée très loin. Son mari avait dû la trimballer dans les 5 parties du monde, et aujourd'hui, grasse, fatiguée, indolente, elle n'aspirait qu'à se reposer sur des chaises longues sans songer à rien. Le fait certain est que le père Vérunia avait réalisé une fortune immense. Quelles en étaient les origines, il ne restait pas de témoins pour les raconter. Les uns parlaient de mines d'argent, les autres de bénéfices fantastiques dans des commerces inavouables, d'autres de jeux. Brasier, suivant sa coutume, prétendait que la fortune de Vérunia était le résultat de formidables canailleries, de ces canailleries dont les canailleries parisiennes ne sauraient même pas donner une idée approximative. Oh, des crimes inouïs dans les déserts, ça se rencontre tous les jours là-bas, c'est très naturel, on ne le remarque pas, ni justice, ni responsabilité, un pays de sauvages. Cette opinion ne l'empêchait pas d'être fort lié avec Vérunia, et ils ressentaient l'un pour l'autre une réelle sympathie. Brasier lui faisait parfois des plaisanteries de mauvais goût. Ils avaient joué une nuit au baccarat, et Vérunia lui avait gagné une somme assez ronde. Depuis lors, Brasier refusa de jouer avec lui, et quand Vérunia proposait une partie, « Ah non, par exemple, tu es trop heureux au jeu !» Je ne dis pas que tu triches, mais tu as dû avoir un ancêtre qui trichait. Tu triches par atavisme. Tu n'y es pour rien. Toi, tu es honnête. C'est l'ancêtre qui est coupable. » Vérunia adorait ces façons-là. Tous les mois, Brasier rendait visite à la mère qui occupait, dans l'avenue des Champs-Élysées, un somptueux appartement avec 4 salons en enfilade où elle ne recevait jamais personne. Il l'aimait beaucoup, elle aussi. Avoir eu un mari et un fils comme cela, ce n'était pas d'une femme ordinaire, certainement. Elle était atteinte de la manie du whist, et pendant cette soirée mensuelle où elle faisait un mort entre son fils et Brasier, elle sortait de son alanguissement habituel. Elle riait, elle racontait des histoires. À minuit, quand ses partners disparaissaient, elle retombait dans son rêve. Vérunia allait chaque soir au journal, sur lequel il exerçait un contrôle actif, surveillant l'administration, la rédaction, les garçons de bureau. De nombreux visiteurs le guettaient dans l'antichambre, des journalistes, des courtiers d'annonces, jusqu'à des hommes politiques. Il recevait les courtiers d'annonces d'abord, les affaires avant tout. Ce jour-là, comme il était en retard, il fit prier tous ces messieurs de repasser, sauf Paul Velard, qui ne venait jamais pour rien. Quoi de nouveau, hein? Vous avez quelque chose en train? Dites vite, j'ai mené une vie de patachon cette nuit, je n'en puis plus. Velard lui présenta Farjol. Mon cher, voici un de mes amis, un garçon un peu timide, mais très intelligent. Il commence à peine et ne connaît pas grand monde. Il a besoin de vous pour une affaire. Asseyez-vous donc, jeune homme, dit Vérunia. Il me semble que je vous ai vu quelque part. Farjol interdit, murmura. J'ai fait un peu de reportage chez vous, il y a 2 ans. Ah, c'est ça, s'écria Vérunia. J'ai une mémoire des gueules. Paul Velard rit aux éclats, et Farjol, qui comprit immédiatement la situation, se tordit. Vérunia, joyeux, le regarda d'un air tout à fait sympathique. « Ah, vous avez bien fait de lâcher le reportage, jeune homme. La publicité vous mènera joliment plus loin. Maintenant, allez-y de votre boniment. » Le directeur de l'informé était en belle humeur. Il proposa à Farjol des conditions d'un bon marché exceptionnel. Vous ferez payer le maximum à votre client, ça va de soi, et vous garderez la différence pour vous, plus la commission. Vous avez une bonne tête, je veux être gentil avec vous. Farjol se confondit en remerciements, une véritable aubaine pour lui. Quand il avait affaire à de pauvres diables de courtiers, crevant la faim, Vérunia ne se montrait pas trop féroce. Souvent même, il se laissait entraîner par de véritables mouvements de générosité. Mais il aimait qu'on le remarquât, qu'on le remerciât avec force pour ses démonstrations. Il ne devenait impitoyable qu'avec les industriels riches, les banquiers, qui lançaient une affaire et avaient besoin de son journal. Ceux-là, il les faisait marcher ferme, il les salait, il les écrasait de la puissance de sa publicité, moins par avarice que pour satisfaire son goût de domination et son immense mépris de tout le monde. Il se moquait bien du mince bénéfice de la réclame des bretelles écossaises. Et que lui importait d'humilier Farjol, si peu de choses, si misérable devant lui? L'an dernier, lorsque le tourneur avait lancé sa fameuse émission, le jeu en valait la peine. Aussi, quel acharnement après ce financier, quel orgueil de l'avoir vaincu et réduit à merci. Le tourneur n'oublierait jamais ce que lui avait coûté sa rencontre avec Vérunia dans la forêt des affaires. « Nous vous quittons, et merci encore, » dit Velard en tendant la main au directeur. « Ah, certes oui, merci, » ajouta Farjol. « Vous ne pouvez pas vous figurer, monsieur, quel service vous m'avez rendu. » Et, comme se parlant à soi-même, c'est inouï ce qu'on peut faire d'un mot. Paul Velard regarda son camarade à la dérobée, cet enthousiasme lui paraissant exagéré. « Diable, il est plus malin qu'il n'en a l'air, l'ami. » Vérunia tire sa montre. « Allons, bon, elle est en retard, cette sacrée femme, 7h30. »« Ah, vous attendez, madame, » dit Velard, « adieu, nous partons. »« Oh, au contraire, » dit Vérunia, « restez tous les deux avec moi, nous allons simplement dîner au restaurant, puis au Châtelet, voir une féerie. Elle adore les féeries, Joséphine. » « Impossible, » répliqua Velard, « je dîne chez Jeanne, nous traitons des Rastaquers. » « Oh, voyons, mes enfants, ne m'abandonnez pas, si vous croyez que c'est drôle de manger en tête-à-tête avec une femme et d'aller à une féerie idiote. Vous, Farjol, vous êtes libre, j'espère. Restez donc avec moi. » Farjol répondit, « Oh, moi, je suis libre. Ah, entendu alors, je vous garde. Je vais vous présenter à Joséphine. Ah, vous verrez, elle est rigolote. Ah, et bonsoir, mon petit Velard, à bientôt. » Un coupé s'arrêta à la porte de l'hôtel. « Ah, la voilà justement, Joséphine !» Elle entra dans le bureau de Vérunia et embrassa bruyamment le directeur. « Nous avons un convive ce soir, Monsieur Farjol, que je te présente. Attendez-moi une seconde, je monte à la rédaction et je suis à vous. » Dès que Vérunia fut sortie, Joséphine s'avança rapidement vers Farjol et, souriant, « La patronne va bien ?»« Hein ?» « Vous ne me reconnaissez pas, Monsieur Farjol, Joséphine, l'ouvrière de Madame Favard, la blanchisserie des martyrs. »« Ah oui, il me semble, en effet. Mais rassurez-vous, Monsieur Farjol, je suis bonne fille et je ne dirai rien à Vérunia. »« Je ne m'en cache pas, » dit Farjol. « Ah, je serai si contente de la voir, madame. Venez à la maison, ça nous fera plaisir. » Il lui donna son adresse. J'ai connu Vérunia à l'Élysée Montmartre, ajouta Joséphine, et il y a un mois que nous sommes ensemble. Vérunia revint. Dépêchons-nous de dîner, tu vas rater le commencement de la féerie. Je m'en fiche de la féerie, déclara Joséphine. Je suis très contente ce soir et je veux bien dîner d'abord. Je verrai le commencement une autre fois. Ils montèrent tous les trois dans le coupé et Joséphine s'assit sur les genoux de son amant. Pendant le trajet, Farjol réfléchit. Prévenir Emma par un commissionnaire qu'il ne rentrerait que très tard. Dame, il faudrait faire arrêter le coupé, déranger Vérunia. Mauvais, Emma ne serait pas inquiète. Elle comprendrait qu'il est arrivé quelque chose d'important. Car enfin, c'était important pour lui, excessivement important. Qui lui aurait dit que ce matin, il dînerait avec Vérunia? Ah, quelle veine! Quand Emma saurait ça! Ils descendirent dans un restaurant célèbre du quartier du Châtelet, sur les quais. Vérunia leur offrit un dîner luxueux, car ce fut Joséphine qui le commanda et elle choisit les vins les plus coûteux de la carte sans se soucier aucunement de leur cru. En fait de plat, elle demanda ce qu'il y avait de plus compliqué. Vérunia l'excitait dans ce débordement de gourmandise et Farjol manifestait une grande admiration d'une telle magnificence. « Vous n'avez jamais dîné ici, Farjol ?»« Jamais, je ne suis pas allé 10 fois dans ma vie dans des restaurants chics. Dame, vous savez, c'est bigrement cher. » Il reprit d'un vin qui coûtait 20 francs la bouteille, et Vérunia, enchantée, en fit venir un autre, encore plus cher. Lui buvait très peu, ayant l'estomac affaibli. « Ouais, vous arriverez à vous terrer d'affaires, vous aussi. Il ne s'agit que de guetter l'occasion. Voyez, Moussac, une de vos gloires. » Moussac de chez le tourneur, le banquier. Eh bien, vous ne savez pas la cause de la fortune de Moussac? Non. Ah ça, mais vous ignorez l'histoire de France, mon cher. Moussac, il y a 3 ans, était plus décavé que vous. Il mourait de faim, positivement. Il ne gagnait pas 100 francs par mois, à des métiers fantastiques. Il m'a tapé de 100 sous, je ne sais combien de fois. Un beau jour, sur un boulevard, il voit un monsieur qui allait être renversé par un omnibus. Il était tout près du monsieur, il le prend par le bras et l'écarte sans courir le moindre danger. Le monsieur avait eu une peur horrible. Il appelle Moussac son sauveur et lui donne sa carte. C'était le tourneur, le banquier, tout bonnement. Le lendemain, Moussac va prendre de ses nouvelles, le tourneur s'informe de sa situation et lui accorde la publicité de toutes ses affaires. Aujourd'hui, ça lui rapporte dans les 200 000 francs par an. Qu'est-ce que vous dites de cela? Je dis, répondit Farjol, que dorénavant, je regarderai attentivement les omnibus dans Paris. Le directeur de l'informé, qui aimait les plaisanteries faciles, se mit à rire, Joséphine également. Croyez-vous, continua Vérunia en montrant sa maîtresse, que cette gamine-là aussi n'ait pas eu de la chance de se trouver à l'Élysée Montmartre il y a 3 semaines? Elle était blanchisseuse, n'est-ce pas, Joséphine? Joséphine, pour ne pas gêner Farjol, essaya de détourner la conversation. Mais celui-ci dit tranquillement, « J'ai eu l'avantage de voir madame plusieurs fois dans sa boutique rue des Martyrs. Je demeurais vis-à-vis avant mon mariage. » Joséphine, très étonnée, balbutia simplement « Oui ». « Vous êtes marié, vous ?» fit Vérunia. « J'ai même épousé la patronne de la blanchisserie où mademoiselle Joséphine travaillait. »« C'est vrai, » affirma Joséphine, « il a épousé la patronne. » Vérunia, à ces mots, fut pris d'un accès d'hilarité indescriptible. Il ne pouvait plus se retenir tant il était joyeux de cette révélation, et il jetait dans la salle silencieuse du restaurant des éclats de rire sonores. Des dîneurs s'arrêtèrent pour le regarder, et le patron passa sa tête à travers la porte. « Vous avez épousé la patronne de Joséphine. Oh, c'est exquis. Ah, très drôle. Vous avez joliment bien fait. Oh, oh, tu me plais beaucoup, décidément. » Joséphine pensa que Vérunia manquait de tact et froissait Farjol. Celui-ci, au contraire, riait de bon cœur et le dîner se termina de façon gaie et cordiale. Le directeur de l'infortuné continua de tutoyer le courtier qui ne cessa de lui parler respectueusement. Il l'appela cependant Vérunia, tout court. Ils allèrent au spectacle, puis souper. Farjol rentra chez lui à 2 heures du matin. Il traversa rapidement la salle à manger et pénétra dans la chambre, éclairée par une bougie placée sur la table de nuit. Emma était couchée, elle lisait. Farjol, avec une légère appréhension, s'avança vers le lit et embrassa sa femme au front. « Je dormais presque, dit-elle. Qu'est-ce que tu as fait ?»« Je vais t'expliquer ça. Tu n'as pas été trop inquiète. »« J'ai été inquiète jusqu'à 9 heures, puis j'ai supposé que si tu ne prévenais pas, il devait y avoir quelque chose d'important. Pas d'ennui, hein ? Au contraire. » Bon, je me suis couché un peu plus tôt et j'ai lu ce roman. Il est très ennuyeux. Tu es tout rouge, qu'est-ce que tu as ? J'ai été obligé de souper. Je n'ai plus l'habitude. J'ai un peu mal à la tête. Je suis allé au théâtre. Devine d'abord avec qui j'ai dîné. Déshabille-toi, mon chéri. Tu me raconteras tout ça dans le lit. Il but un verre d'eau sucrée, enleva ses vêtements et se coucha. Emma se recula pour lui faire de la place. Il ressentit aussitôt l'inexprimable bien-être que provoque la tiédeur d'un lit déjà chauffé, et il s'étira en murmurant « Dieu, qu'on est bien chez soi !»« Bon, maintenant, demanda Emma, et ton affaire ?» Farjol s'étira de nouveau, rayonnant sous les couvertures, car il gelait dehors et il avait pris froid aux pieds. Il chercha une position commode pour raconter son histoire, se mit sur le dos, sur le ventre et finalement de côté, regardant sa femme. Alors il s'allongea tout à fait, enfoui jusqu'au nez. Emma arrangea l'oreiller qui glissait. « Eh bien, je t'écoute. » Il sortit la tête, cachée entre les draps. « Devine avec qui j'ai dîné. » « Comment veux-tu que je devine ça ? Avec Velard ? Il est gentil, ce gamin. Il a une maîtresse stupide, j'irai la voir. »« Non, pas avec Velard, » reprit-il. « Avec qui ? Tu m'impatientes à la fin. Dis-moi avec qui ? Il n'y a pas besoin de faire tant de façons pour me dire avec qui tu as dîné. » Et d'un brusque mouvement, elle tira son bras, moitié nu. Il était rond, mat et robuste. « J'ai dîné, articula Farjol, avec un homme qui a plus de 30 millions à lui, avec Vérunia, le directeur de l'infortuné. » Emma l'avait souvent entendu parler de Vérunia comme d'un homme extrêmement riche et puissant. Elle sourit, se pencha sur lui, très intéressée. « Allons donc !» Ils se rapprochèrent. Farjol l'embrassa sur la joue et lui raconta les détails de son entrevue dans le cabinet du directeur, l'invitation à dîner, lui seul, Velard dînant en ville. « Sais-tu qu'il t'a rendu un rude service, ce petit ? » s'écria Emma. Pendant une seconde, l'image de Velard, imberbe, pâle, élégant, lui traversa l'esprit. Très grand, je n'en disconviens pas, dit Farjol, mais le plus drôle de l'histoire, c'est que la maîtresse de Vérunia, tu la connais beaucoup, la maîtresse de Vérunia. Moi, c'est cette ouvrière mince que tu avais au magasin. Joséphine ? C'est ça, Joséphine. Vérunia l'a rencontrée à l'Élysée-Montmartre. Elle ne le quittait pas, observa Emma. Elle était d'une paresse. « Il en est devenu amoureux fou. Il lui a meublé un appartement dans le quartier des Champs-Élysées. » Emma se releva, s'assit sur son lit, croisa les bras et dit « Ça, par exemple, c'est épatant. Recouche-toi, ma chérie, tu vas t'enrhumer. Il n'y a rien d'épatant à cela. C'est très commun à Paris. » Elle n'en revenait pas. Cette Joséphine, elle qui était déjà noceuse, elle va pouvoir s'en payer. Il lui donne beaucoup d'argent. Et tu penses, 30 millions de fortune, elle est vêtue comme une duchesse. Emma se recoucha. Elle a de la veine. Oh, il ne doit pas être commode tous les jours pour une femme, Vérunia. Ah, voilà, fit-elle, c'est le mauvais côté de cette existence. Il faut supporter tout le monde, faire la noce, souper avec le premier venu. L'argent qu'on gagne est vite englouti. Sans ça, tiens, combien y en a-t-il qui puissent mettre quelques sous de côté et vieillir à leur aise ? « Aucune, ma chérie. Au fond, il vaut mieux faire comme nous, être tranquille et ne pas se lancer dans des aventures. Tu as raison. À propos, elle m'a demandé de tes nouvelles, Joséphine. Elle veut te voir. Je lui ai donné notre adresse. Oh, je la reverrai avec plaisir. Voilà bien 2 mois au moins que nous avons quitté le magasin. Il me semble qu'il y a des années. Tu te rappelles, hein, rue des Martyrs. Je ne voudrais plus mener cette vie-là. » Comme on s'habitue à la tranquillité. Emma regarda le coucou qui marquait 3 heures. « Oh, qu'il est tard, » dit-elle. « Bonsoir, mon chéri, je m'endors. » Elle l'embrassa et lui tourna le dos, emportant dans le mouvement de ses hanches qui bombaient une partie des couvertures. Farjol reprit de la couverture et lui tourna le dos également.